au lieu de toi essayer avec tes propres forces, d'une façon volontariste, de te hausser jusqu'à...
Laissez-vous réconcilier par le Christ.
Hein?
Laissez-vous réconcilier.
Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous. Laisse revenir jusqu'à toi. Fais-lui l'honneur et la grâce de venir jusqu'à toi, de rechercher sa volonté. Il disait à celui qui est appelé, quand éventuellement tu fais un déjeuner ou un dîner. Maintenant, il a parlé pour les gens qui étaient invités. Maintenant, il parle pour l'invitant. Il dit la même chose. Quand tu fais un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis et tes frères, ni ceux de ta parenté, ni des voisins riches. De peur que aussi t'invite en retour, de peur que, hein, et qu'il t'arrive une contrepartie. C'est ce que nous faisons, hein, généralement. Nous invitons ce que nous invitons. Et nous essayons de les recevoir mieux qu'ils nous ont reçus. C'est pas comme ça qu'on fait. Bon. Mais quand, éventuellement, tu fais une réception, appelle sans cesse des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te donner en contrepartie. Ils ne peuvent pas te réinviter. Tu en seras heureux. Pourquoi? Mais parce que tu vivras la gratuité, Dieu. Il n'y a plus de contrepartie. Tu seras heureux. Tu seras heureux, hein? Car il te sera donné en contrepartie à la résurrection. Laisse le Seigneur te récompenser comme il veut, autrement. Et ça, c'est l'esprit du repas dans le royaume. L'esprit du partage. C'est un partage où chacun reçoit tout. Et donc, dans ce type de partage, il n'y a plus des bons ou des mauvais, des exclus ou des pas exclus. Il y a des gens qui essaient de vivre ensemble la gratuité. C'est tout. Or, faisait route. Je suis au verset 25 du même chapitre 14. Or faisait route avec lui des foules nombreuses. Il s'étant tourné, il dit à leur adresse, après avoir parlé au petit comité, là chez le pharisien, ce sont des foules nombreuses. Si quelqu'un vient auprès de moi, il ne hait pas son propre père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses soeurs, et encore aussi sa propre vie, c'est-à-dire. Haïr ici, il faut voir ce que ça veut dire, hein? C'est aimer moins que, comparaison. Il ne peut être mon disciple. Et là, nous voyons notre incapacité totale à être ses disciples. Incapacité totale. Parce que nous tenons toujours, nous nous accrochons toujours à quelqu'un. Il met la barre haut, hein? Très bien. Et oui, il nous montre bien qu'il nous engage à l'impossible. Et précisément, c'est l'impossible qui est le chemin. Quiconque ne soutient pas sa propre croix et ne vient pas derrière moi, il ne peut être mon disciple. Et la propre croix, hein, comme disait, je ne sais plus quelle religieuse, hein, je suis moi-même ma propre croix, Seigneur, fait que je me porte bien. Il a dit qu'il fallait porter sa croix. Je suis moi-même ma propre croix. Donne-moi de bien porter. Voilà. Et incapacité radicale. Par pure grâce. Mais nous voyons que là, nous sommes vraiment incapables de suivre Jésus. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Que suivre Jésus est une pure grâce. Et donc que nous sommes vraiment des gâtés de pouvoir découvrir qui il est, de pouvoir passer plusieurs jours à écouter la parole. C'est extraordinaire. Et donc cette grâce est une responsabilité. Elle ne nous est donnée que pour être partagée. Donc, il faut découvrir à quel point nous sommes pécheurs. Non pas seulement incapables, mais encore en plus, pécheurs. Or, tous les publicains et les pécheurs approchaient sans cesse de lui pour l'entendre. Ils ont découvert quelque chose, ceux-là, précisément parce qu'ils sont pécheurs et qu'ils le savent. Ils ont découvert, et dans leur milieu, ils étaient exclus. Hein. Donc ils ont découvert, ils ont commencé à découvrir cette gratuité. Et les pharisiens et les scribes, de l'autre côté, murmuraient entre eux en disant, « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. » Et alors, il donne ces paraboles dites de la miséricorde. Vous connaissez ces paraboles, nous ne revenons pas beaucoup là-dessus. Un homme, une femme, évidemment. Hein? Un homme qui est nomade et une femme qui est citadine. Et il y a des situations différentes qui sont données par là. C'est une manière de dire aussi l'universalité. L'homme a perdu une de ses brebis, il va la chercher, et on est plein de joie quand il la trouve avec ses amis. Et la femme a perdu une de ses bagues, mais elle balaye toute la maison, et quand elle l'a trouvée, elle convoque ses voisines. Et elle dépense pour la réception de ses voisines, peut-être beaucoup plus que la femme qu'elle a eue. Donc c'est intéressant, parce que ce n'est pas la drachme qui est tellement importante, c'est la joie de pouvoir être véritablement ensemble. C'est ça. Donc, ce que je reçois, parce que je le reçois gratuitement, je ne peux que le partager. Je n'ai rien à garder pour moi. Tout ce qui m'est donné, je peux le partager. Et puis alors, il va vous donner une lecture du païen et du juif, qui est évidemment un que vous connaissez bien, qui vous fait évidemment réfléchir. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit au père, « Père, donne-moi la part qui me revient, la fortune, mais s'il a deux fils, s'il lui donne sa part, l'autre a le reste. » Celui-ci leur répartit ses ressources. Et puis voilà, tout ce qu'il a, il le dit la Bible, c'est exactement ce que nous faisons. Tout ce qui nous est donné, nous croyons que c'est à nous, et donc nous dilapidons. Et puis nous sommes réduits, quoi, à l'animalité, nous sommes mis au niveau des porcs. Et on voudrait bien se rassasier des caroubles que mangent les porcs. Les caroubles sont des fruits des pauvres, hein, ce sont les pauvres qui mangent des caroubles, donc ça. Et personne ne lui en donne. Autrement dit, c'est la solitude de celui qui dépense pour lui-même. Il est finalement tout à fait solitaire. Et étant venu en lui-même, il se retrouve. Quand il n'a plus rien, il se retrouve. Combien de salariés de mon père sont débordés de pain, et moi je meurs de faim. Je commence par découvrir mon manque et je compare à celui qui a. C'est un chemin, hein, je commence par là. Et alors, je ferai route auprès de mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché vers le ciel, donc il a quand même la notion de Dieu, la verticalité et l'horizontalité et en présence de toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Commence à découvrir ce que c'est qu'être fils à partir de son péché. Parce qu'il n'a pas été fils, il a été son propre maître, il n'a pas accepté de dépendre du Père. Et donc, il commence à découvrir ce qu'est être fils. Mais il le découvre comme quelque chose auquel il n'a plus accès. C'est moi comme l'un, j'étais salarié. Non. On paye le travail, le service. Et s'étant dressé, il vint auprès de son propre père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Voilà. Le père fut ému de compassion. Il lui dit, Père, j'ai péché vers le ciel et en présence de toi. C'est vraiment devant le Père qu'il découvre son péché. Et il y a là une sorte de paradoxe. Hein. Il dit Père, et en même temps il dit je ne suis plus ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton père. Mais il dit père. Et donc, c'est que cette réalité de paternité, il n'a pas perdu. Il ne peut pas le perdre. Mais il en reprend conscience. Et le père dit à l'adresse de ses serviteurs, vite, emportez dehors une robe la meilleure et habillez-le. Revêtez-lui de la grâce. Donnez une bague à la main et des sandales à ses pieds. La bague étant le signe de l'alliance, évidemment, et la sandale à ses pieds, et apportez le veau gras, immolez-le, parce que celui-ci, mon fils, était un mort, et il a revécu. Il était un peu déçu, et il fut retrouvé.
Et les sandales, c'est le signe de liberté.
La liberté, c'est la liberté d'aller et venir. Donc, faites de lui de nouveau un fils. Libre. Mais ils sont deux, hein. Et ce qui doit évidemment arriver, c'est le partage, puisque on devrait être dans le repas et recevoir l'un et l'autre du père ce qu'on est. Le fils aîné est au champ. Il est très important, ce fils aîné, évidemment. Et c'est le frère. Et le frère risque toujours d'être jaloux. Nous savons ça depuis Caïn et Abel, mais depuis le début. Le frère aîné était au champ, et lorsque venant, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des chœurs, et ayant appelé auprès de lui l'un des serviteurs, il s'informa de ce qui arrivait. Or, il lui dit, ton frère est venu, et ton père a immolé pour lui le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Et il se met en colère. Oui, il est dehors et il s'exclut. L'autre s'était exclu et il est réintégré. Et lui, il s'exclut. Il est au dehors et il y reste. Mais le père vient le trouver. Vous remarquez que le père fait la même démarche des deux côtés. Il vient le trouver. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père étant sorti, le conjurait. Ayant répondu, il dit au père, tiens, il ne dit pas père, lui. Étrange, hein. Voici autant d'années que je suis à ton service. Et il ne se considère pas comme fils, mais comme un des salariés. Et jamais je ne passais un commandement de toi. Et jamais tu ne me donnas un chevreau afin que je fasse la fête avec mes amis. Et comme il pense à lui, au lieu de penser à la gratuité qu'a reçu son frère, dont il devrait être vraiment ému, parce que son frère a été reçu en pleine gratuité par le père. Il devrait admirer cette gratuité et en faire sa part. Eh bien, non. Quand ton fils, revint, celui-ci n'est pas mon frère, hein, ton fils, qui a dévoré tes ressources, hein, avec des prostituées, tu es malin pour lui le veau gras. Celui-ci lui dit, enfant, toi tu es en tout temps avec moi, et tout ce qui est mien est tien. Or il fallait faire la fête. Il fallait, à partir de quoi fallait-il? À partir de la gratuité, tiens. Il fallait faire et se réjouir. Parce que ton frère, lui, il dit ton frère, celui-ci était un mort et il revécu, un perdu, et il fut retrouvé. Et nous attendrions une petite conclusion, hein. La conclusion, elle est dans notre vie. Sommes-nous capables de faire la paix et de recevoir notre frère qui a été gratuitement réconcilié et participé à cette gratuité en nous réconciliant avec notre frère. Vous voyez derrière tout de suite. Vous voyez derrière qu'il y a évidemment une image du païen, celui qui est venu en second lieu, le fils plus jeune, fils cadet, et du juif qui est le frère aîné. Et le païen qui a couru la prétentaine et qui arrive sur le tard, il a du mal d'être accepté aussi par le juif. Ça joue en filigrane. C'est pas l'unique leçon, évidemment. Mais ça joue en filigrane, en nous disant, et c'est pour ça que vous allez voir dans les Actes des Apôtres, le filigrane devenant la réalité concrète. Et on va demander justement à l'un et à l'autre de se recevoir mutuellement. Michel. Il se fait l'avocat du diable, pour ceux qui n'ont pas entendu. Oui.
En fait,
c'est
une belle image de la réconciliation. On a plutôt l'impression qu'il manque un temps. C'est celui de la pénitence, de la. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent dire qu'il y a un malaise dans les rapports police et justice.
Hein? Dans les rapports
police et justice. Par exemple, à part encore dans Malka, où il y a eu des vols de temps, il y a une population qui est vraiment déçue de voir toute la casse qu'il y a eu. Et alors, ceux qui ont voté ça, se retrouvent immédiatement libérés. Alors, les policiers étaient en colère, c'est bien compliqué. Donc, la justice, à la mesure de la révolution, donc c'est des mineurs. Mais enfin, c'est pour souligner un peu le fait que. Il y a un élément, évidemment, ici, on ne peut pas tout souligner, mais on sent très bien qu'il y a un élément pédagogique de l'amendement, de la réparation qui doit être mis en place.
Je vois bien, nous ne sommes pas dans le domaine de la justice. D'abord, certainement pas dans la justice humaine, et ce texte n'est pas du tout destiné à dire ce qu'il faut, en quelque sorte, faire. Ce texte est destiné à nous faire découvrir la gratuité de l'amour paternel.
Oui, Jésus dit partez de même, non ? Alors qu'il le dit au Samaritain.
Justement. Ici, il nous montre jusqu'à quel point. C'est une révélation de la paternité de Dieu, là, ici. Ici, c'est une révélation du partage gratuit que Jésus nous fait, hein, en nous invitant, c'est une grâce absolue, ici, nous pouvons en tirer toutes sortes de conclusions morales, de conclusions de la justice dans nos pays, ça, nous pouvons faire ça, mais ce n'est pas le but premier de l'Évangile. Le but premier de l'Évangile, c'est de nous faire découvrir la gratuité de l'amour du Père. À partir de là, on pourra peut-être prendre des mesures. Mais ce n'est pas le premier point. Oui.
Ce qui me frappe, c'est l'allusion trinitaire, puisque ta mort est à toi. Ça revient oui. Dans Saint Jean. Entre
exactement, hein, dans les rapports mutuels. C'est vrai. Mais voyez, c'est pour ça que je vous dis, attention de ne pas trop vite moraliser l'évangile de Luc. Et ici, nous sommes vraiment à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des conseils de moralité, quand il nous dit, hein, quand tu veux faire un repas, n'invite pas hein, ceux qui pourront te le rendre. Mais c'est pas ça qui est intéressant ici. Est-ce que tu vis dans la gratuité de ce que tu as reçu?
Moi, je crois que dans le cas de la parabole ici, oui. L'application plus ou moins morale dépend de la situation des personnes. Le père de ce garçon qui a cafouillé ne veut pas avoir davantage l'attitude de la parabole que le juge ou le policier, puisque le père-fils est plus image de Dieu et nous que le policier.
Justement.
Donc tout dépend de la situation propre.
Mais ce que vous voyez bien, c'est que ce qu'il faut découvrir, c'est la relation trinitaire. Et c'est à partir de là qu'on pourra construire quelque chose. Mais si on ne découvre pas la gratuité absolue, alors vous ne savez pas ce que c'est qu'un père. C'est parce que c'est qu'aimer. Nous sommes incapables d'aimer. Nous pouvons nous sentir aimer ou aimant, mais c'est nous sentir. Aimer, c'est-à-dire à fond perdu. Allez. Maintenant, alors ici nous avons découvrir l'Esprit Saint dans le concret des situations. Si nous vivons à l'intérieur même de cette gratuité partagée, donc partage et pardon, va falloir vivre ça dans le concret des situations. Et là, vous avez deux paraboles. Je ne pourrais pas m'étendre longuement là-dessus.
Je reviens un instant parce que j'ai eu une retraite avant pour te connaître. Ici, à Sibli, où Guéli expliquait la parabole sur deux instructions. J'avais la rapidité avec laquelle tu l'as sauté aussi. Hein. Mais il disait, son père sortit l'en prier. Est-ce que ce prier, c'est le verbe prier ou bien est-ce que c'est le verbe
prier? Pas tout à fait. Je n'ai pas le grec ici, mais j'ai traduit par conjurer. Hein? C'est quoi que ça, non? Le conjurait, oui. Son père étant sorti, le conjurait.
C'est pas le même. Parce que Guéli déployait toute une réflexion très valable, par ailleurs.
Oui.
Qui prie? Qui c'est Dieu qui prie l'homme?
Ah oui.
Donc c'est valable au-delà du verbe.
Tout à fait, tout à fait. Non, c'est Dieu qui prie l'homme.
C'est Dieu qui se met à genoux devant.
Absolument. Absolument, c'est bien ce qu'il, veut dire. Mais c'est pas évident hein, de découvrir cela. Et maintenant, cela provoque une attitude. Et cette attitude, c'est découvrir comment l'esprit est présent dans la réalité concrète des choses. Et c'est pourquoi au chapitre 16 et jusqu'à 17, 10, 17, 10, ah non, j'ai mis 17, 16, mais je me suis trompé. 17, 10. Nous avons, alors que le terme Esprit Saint n'intervient pas, nous avons au fond, que signifie vivre la vie, je dirais selon l'Esprit, selon cette gravité. Vous allez voir que les choses se retournent. Tout est centré évidemment sur deux paraboles. La parabole de l'intendant fidèle et avisé. Et la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous traduisons souvent le mauvais riche. C'est dit nulle part hein, qu'il est mauvais.
Si, c'est le rabbi de Jérusalem.
dans le titre, rabbi la ville de Jérusalem. Mais dans le texte, je ne vois pas. Et si vous le voyez, vous pouvez peut-être oublier les yeux, mais c'est intéressant de voir. Hein? À quoi cette attitude de gratuité partagée, de gratuité totale, à quoi ça nous mène? Ici, c'est un passage tout à fait paradoxal et scandaleux, où Jésus loue un type qui fait, non seulement qui fait de mauvaises affaires, qui trompe son maître, on connaît ça,
tapis,
pour l'exemple. Et qui fait des faux en écriture. C'est pas évident, mon cher. C'est un homme qui était riche. Il avait un intendant. L'important, c'est pas tellement le mot riche, l'intendant est important. Qui est dénoncé comme dissipant ce qui se trouvait à lui. C'est curieux, parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui nous est coutumière, et on dirait que ça l'était aussi à l'époque de Jésus. Et l'ayant appelé, il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends de ton sujet ? Rends compte de ton intendance, car tu ne peux plus continuer à être intendant. » Intéressant de voir que nous sommes des intendants. Hein. Nous ne sommes pas des possesseurs, nous sommes des intendants. Le possesseur, c'est Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles ou infidèles? Ça, c'est bien là le problème. L'intendant dit en lui-même, que faire? Parce que mon Seigneur ôte de moi l'intendance. Piocher, pas la force. Mendier, j'ai honte. Ah, je sais ce que je vais faire. Afin que, quand éventuellement j'aurai été déplacé de l'intendance, il, on ne sait pas qui, hein, ils me reçoivent dans leur propre maison. Le gars se trouve tout seul et il sent qu'il a besoin d'amis. Il a besoin de gens qui le soutiennent. C'est intéressant. Quand on perd sa situation, il faut aller voir. Chez des amis. Il faut avoir des amis. Il faut que je m'en fasse avant. Et ayant appelé auprès de lui tout un chacun des débiteurs de son propre seigneur, il disait au premier, « Combien dois-tu à mon seigneur ?» Sans mesure d'huile. Allez, on va en créer 80. 50, pardon. Il dit à un autre, « Et toi, combien est-ce que tu dois ?» 100 boisseaux de blé. Il dit, « Bon, allez, voilà, on va en créer 80. » On a pensé, ce n'est peut-être pas inimaginable, on a pensé que la commission qu'il recevait, il la leur donnait. Et il ne faisait pas de tort à son maître. Et le fait qu'il y a des articles qui ont été calculés, les commissions, hein, que l'on pouvait éventuellement retirer, et ça va jusqu'à la moitié du prix. Vous voyez ici 5 ans et 20%. C'est possible, tout ça c'est possible. Le Seigneur, mais qui est le Seigneur? Est-ce que c'est le maître ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Vous ne savez pas, hein? C'est pas tout. Et le Seigneur fit l'éloge de l'intendant de la justice. On dirait que c'est le Seigneur de la parabole, hein, puisqu'on l'a appelé comme sa justice ici. Et ça peut être aussi Jésus. Parce qu'il avait agi de façon avisée, parce que les fils de ce siècle sont plus avisés que les fils de la lumière envers leur propre génération. Drôle d'affaire, hein? Donc il faut prendre exemple sur la manière dont les gens de ce siècle ont besoin d'amis. Mais en cela, ils se montrent avisés. Ils sont plus avisés que les fils de la lumière. Drôle de manière de s'exprimer. Et on a pas fini de faire le tour, vous savez, d'un verset comme celui-là. Et moi, je vous dis, ici, Jésus prend vraiment en charge. Maintenant, c'est un peu plus clair. Moi, je vous dis, faites-vous des amis, là, c'est plus clair. Avec le capital de l'injustice, le mammon d'iniquité, comme on traduit parfois. Mammon, c'est un terme qui signifie, ça vient de la même racine que Amen, c'est ce sur quoi on se fie, ce sur quoi on s'appuie, ce à quoi on se fie ou ce sur quoi on s'appuie. Avec le capital de l'injustice, on peut traduire comme ça. Afin que, quand il vous aura fait défaut, il vous reçoive dans les temps éternels. Drôle d'affaire. Ça veut dire qu'il y a comme un lien entre ce qui se vit ici-bas dans les relations et ce qui se vivra plus tard dans les relations. Donc les relations sont quelque chose de vraiment important. Parce qu'elles dépassent en quelque sorte le monde de l'ici-bas. L'amitié va beaucoup plus loin que la vie économique, puisqu'elle va jusqu'aux tentes éternelles. Ce n'est pas tout à fait clair, hein? Et de fait, la parabole n'est jamais tout à fait claire. Elle nous fait réfléchir, c'est tout. Alors, il y a une petite conclusion. Celui qui est fidèle en matière minime, aussi en matière importante est fidèle. Et l'injuste en matière minime, aussi en matière importante, est injuste. Autrement dit, faites un petit examen de conscience pour savoir jusqu'à quel point vous êtes fidèle ou injuste. Dans les petites choses ou dans les grandes. Si donc pour le capital injuste, pour Luc, l'argent est toujours le fruit d'une injustice. Si j'ai gagné de l'argent, c'est probablement sur le dos d'un autre. Hein? Il n'est pas très tendre vis-à-vis de l'argent, monsieur. Donc, pour le capital injuste, vous n'êtes pas arrivé fidèle, le véritable capital, évidemment, qui vous le confirme? Et si pour le capital d'autrui, comme l'intendant en question, vous n'avez pas été fidèle, le vôtre, qui vous le donnera? Autrement dit, sur quoi fondez-vous votre existence? Aucun domestique ne peut être au service de deux seigneurs, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera rivé à l'un et méprisera l'autre. Et puis il conclut, vous pouvez être au service de Dieu et du capital. Dieu et l'argent, ça ne fait pas mon ménage. L'argent, vous ne le possédez jamais. Entendant tout ceci, les pharisiens se trouvant amis de l'argent, pourtant il leur faut de l'argent, hein, ils se moquaient de lui. Et alors Jésus dit, vous vous justifiez vous-même en présence des hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Et de nouveau, nous sommes réduits à zéro. Vous avez un nom, un renom dans la société dans laquelle vous vivez, mais Dieu connaît votre cœur. Alors, sur quoi tablez-vous?
Ici, au verset 8, il dit intendant de l'injustice. Et au verset 9, capital de l'injustice.
Oui.
Est-ce que c'est l'intendant ou c'est le maître qui est en train de dire?
L'intendant est toujours intendant injuste, hein, ici. Il est injuste, il fait de la justice. Et, autrement dit,
comme si
j'irais
que
quelqu'un d'injuste. Mais non, c'est pas lui qui est injuste. Quand il parle de l'intendant de l'injustice, c'est celui qui se fait maître de l'argent qui est capital injuste. C'est comme ça qu'il voit les choses. Mais alors, il y a cette phrase très curieuse. La loi et les prophètes vont jusqu'à la limite de Jean. Depuis l'heure est annoncée la bonne nouvelle du royaume. Donc il y a une sorte de ligne de séparation. Depuis l'heure est annoncée la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et tout homme est invité avec force vers lui. C'est-à-dire que l'invitation de Jésus vous est vraiment donnée comme... Oui, une invitation pressante. Tout homme est invité avec force vers lui. Il dit les choses un peu différemment de Matthieu et de Marc. Or, il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de la loi de tomber. Très curieux cette histoire-là. Donc, il vient de dire que la loi et les prophètes vont jusqu'à une certaine limite et depuis lors on a un plus. Et puis il nous dit maintenant, il revient un peu en arrière, et il vous dit que la loi ne tombera pas. Donc ça veut dire que ce plus du royaume n'est pas opposé à la loi, il est plutôt en continuité avec la loi.
Mais la Bible de Jérusalem dit « Tous s'efforcent d'y entrer par dire non ».
C'est une interprétation, c'est pas facile de traduire. Je traduis littéralement, tout homme, tout un chacun, est invité avec force vers lui. Mais on peut voir, c'est pas simple ce passage.
Et cette force, ça veut dire la difficulté à accepter.
Probablement. Enfin, pour moi, c'est ce que ça signifie. Et donc, il dit... La bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient après Jean est quand même en continuité par rapport à la loi. Et puis, il met ici ce logion, on se demande vraiment ce qu'il vient faire ici. Tout qui renvoie sa femme et en épouse une autre comme étant un adultère, ça n'a rien à voir avec ce qui fait être. Et celui qui épouse une renvoyée d'un homme comme étant un adultère. Il vient de parler de la fidélité à la loi. Donc nous savons que l'adultère est généralement pris comme une infidélité à la loi. On va chercher dans une autre alliance que l'alliance avec Dieu. Et c'est probablement à ça qu'il fait allusion quand il met ce logion à cet endroit-là. N'allez pas chercher ailleurs. La nouveauté du royaume de Dieu se trouve déjà présente dans la loi et les prophètes. Même s'il y a une limite qui est la limite de Jean. C'est pas facile. Alors, c'est un homme qui est riche. Voilà encore, c'est un homme qui était riche de nouveau. Il avait des vêtements de pourpre et de lin fin, faisant sans cesse la fête, chaque jour, splendidement. Or, un certain pauvre, du nom de Lazare, il a un nom, le riche n'en a pas sans doute, se trouvait étendu auprès de son porche, couvert d'ulcères. certains qui ont découvert la figure de Job, et désirant sans cesse se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva au pauvre de mourir et d'être emporté, lui, par les anges vers le Saint-Abraham. Or, le riche brute aussi fut enterré. Vous remarquez la différence.
Ce n'est pas les mêmes pompes.
Pas du tout. Et dans les enfers, et en dehors de ses yeux, se trouvant à la tortue, il voit Abraham de loin. Et Lazare en ses seins. Le saint d'Abraham, mais la tradition iconographique byzantine a représenté souvent le saint d'Abraham. Abraham, c'est le Saint-Abraham, c'est-à-dire les croyants, le Dieu des croyants. Et ayant donné de la voix, il dit, Père Abraham, prends pitié de moi et mande Lazare, afin qu'il plonge le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, parce que je suis tourmenté dans cette voie. Il reprend toute l'imagerie de la GN, qui est reprise dans l'Ancien Testament. Or Abraham dit, enfant, enfant. C'était exactement comme ça que le père parlait à son fils. Enfant. Souviens-toi que tu reçus en retour tes biens dans ta vie. Et là, ça, semblablement, les mots. Là, il ne faut pas étonner qu'il y ait maintenant un retournement. Or, maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Chacun son tour, bien gentil. Et en tout ceci, entre nous et vous, un grand gouffre se trouve établi. De façon que ceux et ceux qui ont ici la traduction, notre traduction du livre bleu, là, faites attention, il y a une faute. De façon que ceux qui veulent franchir des cyber, vous, il y a nous, ceux vers vous ne le peuvent, ni non plus de là vers nous, on fasse la traversée. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous n'avons qu'une vie pour réaliser notre destinée. Et donc que nous avons à vivre vraiment notre réalité de fils pendant cette vie. C'est elle qui décide de notre destin final. Et donc il y a un problème. Or il dit, je te demande donc, Père, que tu le mandes dans la maison de mon Père. Bon, si tu ne veux pas pour moi, ben, au moins pour mes frères. Car j'ai cinq frères, de façon qu'ils leur rendent témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de la mort. Donc Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les entendent. Autrement dit, la loi et les prophètes continuent, hein, comme Jésus a dit, il n'y a rien qui tombera. Il est plus facile au ciel et la terre de passer que pour un seul trait de la loi de tomber. Donc avec la loi et les prophètes, on a déjà une bonne marge de sécurité. Ça ne figure pas vers Abraham. Mais si éventuellement quelqu'un est mort, fait route vers eux, alors ils se convertiront. Mais pardon, Abraham dit, il ne faut pas tourner les tables pour ça. Il leur dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, pas même si éventuellement quelqu'un s'est dressé des morts, ils ne seront persuadés. Autrement dit, il faut passer par le chemin d'Israël. Le monde va faire la loi et les prophètes. Mais c'est à partir du chemin d'Israël que l'on va découvrir ce qui est à la limite, hein, du baptême de Jean, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc ce qu'il veut nous marquer ici, c'est la continuité de l'action. Donc la loi et les prophètes donnent le chemin, orientent déjà vers la rencontre de Jésus. Et donne déjà une route de gratuité. Alors, il est inévitable que les scandales viennent, mais hélas, pour celui à travers qui ils viennent. Mieux vaut pour lui que si une pierre de meule se trouve entourée son cou et qu'il se trouve précipité à la mer. Jésus ne veut pas dire par là qu'il faut jeter les gens à la mer. Jésus compare simplement la gravité d'une chose, d'une faute, scandale à côté d'une fille. Plutôt qu'il ne scandalise un seul de ses petits. Prenez garde sans cesse à vous-même. Si éventuellement ton frère a péché, rappelle-le. Et si éventuellement il s'est converti, pardonne-lui. Ah, nous commençons à voir ce qu'il faut vivre. Il faut vivre l'attention à l'autre. Il faut d'abord se faire des amis. Il faut vivre l'attention à l'autre. Et il faut pardonner. Et si éventuellement, cette fois le jour, il a péché contre toi. Et cette fois, il s'est retourné auprès de toi en disant, je me convertis, tu lui pardonneras. Et le cette fois, hein, c'est un synonyme de toutes les fois. Et les apôtres dirent au Seigneur, ajoute-nous de la foi. On a compris. On a compris qu'on est incapable de vivre ce que tu nous as. Ajoute-nous de la foi. Or, le Seigneur dit, si vous aviez foi comme un grain de sève, gloire à son grain de sève, vous diriez à ce mûrier, sois déraciné et plante-toi dans la mer, et vous aurez obéi. C'est évidemment une impossibilité qu'un mûrier a de se planter dans la mer. C'est bien ce que Jésus veut dire. La foi parvient à réaliser l'impossible. Pourquoi ? Parce que la foi, ce n'est pas ton œuvre. La foi, c'est laisser Dieu travailler en ta vie. Or, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, qui paie les bêtes, qui lui dira en son retour des champs, aussitôt étant passé à table, allonge-toi. Mais non. Quand on a un serviteur, on demande à son serviteur qu'il fasse son service. Mais on a dit plutôt plus haut que Jésus était celui qui faisait le service. Hein. Mais il dit, normalement, c'est pas ça qu'on vit. Normalement, tu demandes à ton serviteur, quand il a fait son travail, hein, qu'il te donne encore à manger le soir. Mais ne lui dira-t-il pas, ben, en fait, moi, de quoi vivre ? Et t'es pas sincère, moi. Le temps que je mange et boive, avec moi, tu mangeras et tu boiras, toi. A-t-il reconnaissance pour ce serviteur ? Parce qu'il fit ce qui lui avait été donné comme consigne. Ainsi vous aussi, quand éventuellement vous aurez fait tout ce qui vous a été donné comme conseil, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce que nous devions faire, nous trouvons l'avoir fait. Nous n'avons rien mérité. Dans le royaume du Seigneur, on ne mérite rien. On reçoit tout par grâce.
Ici, ils traduisent pour le Seigneur.
C'est pas tout à fait, je l'ai oublié le terme qu'il est utilisé pour inutile. On pourrait traduire en
quelconque,
oui.
À créole.
Oui, c'est ça.
Quelconque.
À créole, c'est-à-dire non utile en fait. Hein. Il n'est pas créos. Hein. Créé, c'est celui qui a une certaine utilité. C'est pour ça qu'on a pris inutile. On dit parfois quelconque.
Mais c'est pas vrai qu'on est inutile. Hein.
C'est pas vrai qu'on est inutile. Mais l'idée qui est marquée ici, c'est que quand tu as fait ton travail, ne dis pas que ton travail mérite quelque chose. Tu as fait ce que tu devais faire, c'est tout. Tu es serviteur, ben, tu fais ton service. Et tu n'as rien à revendiquer, tu n'as rien à demander. Tu as fait ton service jusqu'au bout. Donc vous voyez qu'après ces chapitres, pour rendre notre famille. Nous disons pas bon procès.
Ce ne sera pas inutile.
Hein. Oui, Jésus nous donne, en tout cas Luc, dans sa manière d'agencer les affaires, une curieuse impression. Une impression d'une ampleur extraordinaire du côté de Dieu. Dieu qui nous donne de partager gratuitement, Dieu qui nous donne d'inviter les gens qui ne peuvent pas nous rendre, donc il nous fait entrer dans la gratuité d'un partage, il nous montre un Père qui pardonne, et nous montre que nous ne sommes pas du tout prêts à pardonner. Il nous montre que nous ne savons pas exactement nous servir de la vie qui nous est donnée. Autrement dit, nous n'utilisons pas bien notre liberté. Alors quoi? Alors, il faut rendre notre tablier? Ou bien, il faut voir comment Dieu agit à travers notre impuissance. Comment lui va, précisément parce qu'il est la grâce par excellence, comment il va traverser nos résistances. Et tout est là. C'est lui qui va faire le travail. Maintenant, si nous voulons regarder les choses à partir des actes des apôtres.
Mais quelle était la fonction exacte de la parabole avec Lazare et Abraham?
Eh bien, c'est la liberté. Il t'est donné ce temps-ci pour vivre l'attention à l'autre, vis-la intensément. Donc partage concrètement.
C'est non.
Et ne laisse pas le pauvre à côté de chez toi.
Non, qui donne la parabole du père et du fils.
Absolument. Absolument. Donc fais attention, parce que c'est maintenant que les choses se jouent. C'est dans ton actualité, il ne faut pas attendre la fin. Après, tu peux demander au Père Abraham, tout ce que tu veux. Mais Père Abraham, il ne sait rien faire à ce moment-là. Il y a un obstacle infranchissable. Donc, bien que tu sois un serviteur inutile, utilise ta vie pour vivre ta liberté. Et ta liberté, tu la vivras dans le partage gratuit, puisque ce que tu as reçu gratuitement, dans le gratuitement. Donc, il nous met au travail, mais dans le sillage de sa propre gratuité. On se prend du pardon qu'il nous donne. Et justement, je crois que là, les actes des apôtres peuvent nous aider à comprendre. Il y a encore beaucoup de choses obscures, vous savez, dans ce texte.